So I think Easter Sunday, and you'll have packed churches all over our country. I think it would be a beautiful time. And it's just about the timeline that I think is right.
Donc ça, c'est le président des États-Unis, Raphaël, qui dit, écoutez, on sait qu'il a dit 12 avril, j'aimerais bien ça que les États-Unis soient open for business. Il dit, écoutez, à Pâques, là, ce serait une belle image, les églises pleines, etc. Écoute, est-ce qu'il y a un scientifique quelque part qui trouve que c'est une bonne idée de donner un deadline à un virus?
Ben, dans son équipe, il n'y en a pas. Ça, je peux te le dire comme ça, là, c'est assez clair. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que l'extrait qu'on vient de faire jouer, ça suivait une espèce de forum que le président a utilisé, ou a donné plutôt, avec lui-même, son vice-président et deux de ses scientifiques. Et à chaque fois qu'on posait des questions de cette nature-là aux scientifiques qui étaient là, on voyait comment ils patinaient parce que d'un côté, évidemment, ils veulent pas contrarier leur boss, qui est le président, et non seulement qui est le président, mais qui est un président, on le sait, avec un caractère assez irritable, merci, aime pas être contredit, mais en même temps, ils veulent pas non plus dire les choses qui vont contre les principes scientifiques. Et il y a pas grand monde dans la communauté scientifique qui semble penser que c'est une bonne idée présente.
Raphaël, il y a deux de ces scientifiques, le docteur Fauci et une dame, là, je suis désolé, j'ai oublié son nom.
Oui, Birx. Deborah Birx.
Deborah Birx, parfait. Il y a des vidéos qui circulent sur l'Internet où on les voit rouler des yeux quand Trump dit des choses.
Absolument. Absolument.
En fait, écoute, moi, je me sens mal pour eux parce qu'ils doivent se dire, là, c'est des scientifiques. J'imagine qu'ils se disent, écoute, d'un côté, oui, j'avale des couleuvres, j'ai l'air d'avaler des couleuvres, mais en coulisses, peut-être que je peux faire œuvre utile.
Bien, ça ressemble beaucoup, en fait, à ce que le Dr Fauci a lui-même dit publiquement parce que, écoute, ce que tu évoques, on lui a posé la question. Et ce qu'il est allé dire de façon assez prudente, mais quand même assez claire, c'est que il y a des fois qu'il contredit le président, il y a des fois que le président n'a pas l'air nécessairement d'aimer ça, mais il est capable de faire avancer le ballon autant qu'il pense que c'est possible de le faire dans ce contexte-ci.
Mais écoute, sérieusement, comme je disais à Philippe tantôt, parce que tu nous as parlé en début d'émission, Raphaël, comme je disais à Philippe il y a quelques minutes, s'il y avait un débat scientifique, s'il y avait là, des scientifiques qui disaient, écoutez, il y a des données qui ne sont pas claires, puis il n'y a pas de consensus dans la communauté scientifique, OK? Là, c'est un débat, là, il y a encore des études. Il n'y a pas un épidémiologiste sur la Terre qui trouve que c'est une bonne idée là, de donner un deadline à un virus. Il n'y a pas un virologue qui pense que ça se fait. Je veux dire, à part un gars qui a besoin d'être réélu puis qui veut sauver les apparences, il n'y a pas personne qui pense... Il y a un doctorat en sciences là, qui pense que c'est une bonne idée.
Ben attention, je dirais que tu viens de mentionner qu'il n'y a pas de débat scientifique. C'est peut-être vrai. Mais ce qu'il y a, de façon très prononcée aux États-Unis, c'est un débat social. Et sur cette question-là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins évident que ce qui peut peut-être sembler évident pour nous a priori. C'est-à-dire que, et tu regardes les résultats de sondage, Philippe en parlait justement dans la première heure de l'émission tantôt, il disait qu'il était surpris de voir un sondage CBS qui montrait que le taux d'approbation de la gestion de la crise par l'administration Trump était de 53%. Mais tu sais, j'ai des petites nouvelles. La firme Gallup a sorti un autre sondage, elle, aujourd'hui. Le taux d'approbation de Donald Trump sur sa gestion du coronavirus, il est à 60%. Et son taux d'approbation général pour l'ensemble de sa performance, là, il est à son plus haut niveau depuis le début de sa présidence.
Tu sais, fait que... Raph, c'est quoi le pourcentage du monde qui pense que la lutte, c'est pas arrangé?
Mais ce que je te dirais très sérieusement, c'est que quand on est rendu dans ces eaux-là, on n'est plus juste auprès de la base de Donald Trump. Ça, il pénètre beaucoup plus large que ça présentement. Okay. Et tu parlais au docteur Barrett aussi il y a quelques minutes, et il a mentionné un mot, je pense, qui est important, qui est intéressant, qui est le mot « culture ». Il y a une grosse question de ça qui est de la mentalité. Les mentalités sont différentes aux États-Unis. Et il y a beaucoup, beaucoup de ça. Et écoute, moi, je t'en parlais, tu le sais. J'ai l'impression de te casser les oreilles depuis plus qu'une semaine parce que j'ai l'impression de me répéter à chaque jour. Mais je te le disais, depuis le début de cette crise-là, aux États-Unis, il va y avoir des débats et des fractures sociales comme presque nulle part ailleurs en Occident à cause de ça. Parce qu'aux États-Unis, là, je te parle de la population générale. Là, je parle pas des décideurs, je parle pas de Donald Trump, je parle pas de son équipe. Auprès des gens ordinaires, On ne voit pas ça seulement comme une question de santé ou une question de virus ou une question de crise sanitaire. On voit ça beaucoup, beaucoup, beaucoup comme une crise économique. Et ce qui est fascinant, que je te parle de sondage, autre sondage qui est sorti dans les derniers jours, on demandait, est-ce que vous craignez le coronavirus? Ça, c'est l'ensemble des Américains. La grande majorité répondait oui. Où ça devenait encore plus remarquable, c'est qu'après, on poussait plus loin et on posait la question suivante. Qu'est-ce qui, dans la crise du coronavirus, vous fait peur? Et il y avait davantage d'Américains qui répondaient les impacts économiques que les impacts sur la santé. Fait que, tu sais, quand Donald Trump tient ce genre de propos-là, ça scandalise la communauté scientifique, ça scandalise en énorme partie la communauté internationale, mais ça trouve écho auprès d'une grosse, très grosse partie de la population américaine. Maintenant, je dis tout ça, il y a un énorme bémol à mettre là-dessus. Et c'est le suivant. C'est plus facile, je pense, tenir ce genre de propos-là maintenant, alors qu'on commence cette crise-là, oui. Que ça pourrait l'être dans un mois, dans deux mois, si les prévisions, disons, assez apeurantes, là, assez épeurantes d'un point de vue de santé, se matérialisent. Et là, ça tombe comme des mouches, là, par milliers, peut-être même plus que ça aux États-Unis.
Raphaël, attends une seconde, Philippe, Philippe Quentin veut intervenir.
Oui, bien, tout à fait. Sur l'aspect économique, on sent aussi que les entreprises sont impatientes. Là, il y a Reuters qui nous apprend que Apple songe à réouvrir des magasins. On n'a pas mentionné encore dans quel pays, même si ça a été fait en partie en Chine. Mais tu sens justement que la communauté des affaires, et je suis convaincu qu'à l'invitation du président Trump aussi, qui dit, hey, faut qu'on reprenne le cours normal des affaires, on va voir de plus en plus d'entreprises qui vont dire, ben, commençons à rouvrir, puis ça ne peut pas rester comme ça, au mépris peut-être de la prudence élémentaire.
Et je sais qu'il y a des Trumpistes qui nous écoutent, ne serait-ce que pour nous détester. Et ces gens-là vont dire ce qu'ils disent toujours. C'est, ça se passe aux États-Unis, ça change quoi? Si Donald Trump décide que le pays est rouvert le 12 avril et qu'il décide qu'il rouvre les frontières, y a-tu quelqu'un qui a envie qu'on ouvre les frontières aux Américains pour qu'ils rentrent ici le 12 avril?
Ben écoute, Pat, moi-même, je t'en parlais la semaine dernière lorsqu'on a parlé de la fermeture de la frontière. Qu'est-ce que je te disais? Je te disais que tant que ça allait pas plus loin, là, autrement dit qu'on ferme pas la frontière aux marchandises, que là, ça oui. serait catastrophique pour le Canada, si on se limitait à ça, c'est le Canada qui voudrait peut-être pas la rouvrir de si tôt parce que les problèmes de santé, l'explosion de cette crise-là, ça semble être plus problématique ou tout au moins plus à risque présentement du côté américain que du côté canadien. Puis, écoute, je veux quand même qu'on se prenne peut-être une minute pour parler du cas là, principal et de loin aux États-Unis présentement, qui est la ville de New York. On se parle de ce dont il était question plus tôt dans l'émission. Là, on s'est parlé de M. Barrett. Je te parle aussi un petit peu de ce que Richard Châteauvert te parlait tantôt. Parce que Richard a parlé du nombre total de cas qui sont déclarés à New York. On est à plus de 25 000 maintenant. 25 000, c'est flou tant qu'on ne le met pas dans le contexte. 25 000 cas déclarés, premièrement, faut le dire, là, c'est très probablement inférieur au nombre réel parce que même si le dépistage est plus prononcé qu'il ne l'était aux États-Unis, il est encore largement insuffisant. Et de deux, il faut le mettre dans le contexte américain. 25 000, c'est à peu près 10 fois plus de cas déclarés qu'en Californie, qui est un autre des États les plus touchés là, et qui est un État qui a à peu près deux fois plus en termes de population que l'État de New York. Donc, écoute, c'est hallucinant ce qui se passe à New York présentement. Et la Dr. Birx, qui fait partie de l'équipe de Donald Trump, s'est fait poser la question justement aujourd'hui sur la ville de New York. Et elle avait trois raisons principales pour lesquelles c'est si pire que ça et c'est si différent à New York. La première, c'était évidemment la densité de la population qui est extraordinaire à New York. La deuxième, les ressortissants ou les voyageurs qui étaient revenus de l'Asie de façon très condensée dans le temps il y a quelques jours et quelques semaines. Oui. Et troisièmement, les surfaces métalliques du métro de New York. Fait que grosse question, c'est de savoir à quel point ce qu'on voit à New York va être aussi pire ou non ailleurs aux États-Unis. Mais je te dis que si ça ressemble à ça, à la grandeur des États-Unis, c'est pas compliqué, c'est une catastrophe à laquelle on va assister. Là.
Très bien, parfait. Merci, Raphaël. On te retrouve demain. Merci, cher Philippe.
Salut, Patrick.
On va te retrouver toi aussi demain. Merci d'être là pour nous donner les dernières nouvelles sur le coronavirus. À venir, entrevue avec Hubert Sassy. Que penser de les succursales de la Société des alcools qui sont encore ouvertes?